Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En août 1980, des touristes qui visitent le château de Bratton, un tumulus préhistorique situé sur un escarpement dominant les plaines du Salisbury dans le sud de l'Angleterre, remarquent, en contrebas, trois cercles dans un champ d'avoine. De leur point de vue, ils ont l'impression que les plantes ont été écrasées par une force tourbillonnante. De retour à leur hôtel, ils contactent le Wiltshire Times, qui envoie sur place un photographe et un journaliste. Dès le lendemain, le quotidien consacre un article à ces curieuses formations qu'il qualifie du « mystère des cercles ». Intrigué par ces cercles céréaliers, un ufologue anglais, Ian Martiglod, demande l'opinion de George Terence Meaden, un météorologue anglais. Meaden s'est acquis une expertise, voire une réputation, dans les phénomènes climatiques inhabituels. Depuis 1974, il dirige l'organisation de recherche sur les tornades et les tempêtes, TORO, pour l'acronyme Tornado and Storm Research Organization, un petit groupe de chercheurs qui collige des informations sur les tornades, les tourbillons, les trombes d'eau, la foudre en boule, les chutes de grêle et autres anomalies de mère nature. L'organisation publie un périodique, le Journal of Meteorology. L'une des marottes du professeur Meaden sont les vortex, des tourbillons de vent souvent chargés d'électricité statique ou électromagnétique qui, en ionisant l'air autour d'eux, peuvent engendrer des plasmas et donner naissance à des phénomènes lumineux surprenants. Meaden prend donc connaissance des informations concernant les cercles céréaliers de Bratton et conclut qu'ils peuvent en effet avoir été créés par des vortex. Dans les années qui suivent, d'autres cercles sont rapportés souvent dans les champs du Wiltshire et des districts voisins, principalement le Dorset et l'Hampshire. Il s'agit essentiellement de marques circulaires où les plantes ont été couchées à partir du centre, tantôt dans le sens des aiguilles d'une montre, tantôt dans le sens inverse. Ces cercles apparaissent entre la fin du printemps et le début des moissons de septembre. Les tiges ne sont pas brisées et continuent de croître malgré l'anomalie. Entre 1980 et 1987, même s'il n'existe aucun chiffre précis à ce sujet, on estime entre 100 et 120 le nombre de cercles qui seraient apparus de la sorte. À cette époque, le phénomène suscite peu d'intérêt, mis à part une poignée d'ufologues, les spécialistes des ovnis, qui voient dans ces cercles des sites d'atterrissage d'ovnis, et le météorologue George Terence Meaden, qui continue d'entretenir son hypothèse des vortex. Les cercles céréaliers n'intéressent à peu près personne. Puis, en 1988, le phénomène se transforme. Cette année-là, 112 cercles sont rapportés, un nombre équivalent à tous les cercles combinés des années précédentes. Leur forme aussi évolue, ce qui n'était au départ que des empreintes circulaires isolées se transforme en des ensembles complexes. Il y a là des cercles entourés d'anneaux auxquels se greffent d'autres cercles plus petits, comme des satellites. Même si George Terence Meaden s'acharne à défendre son hypothèse des vortex, les agriculteurs, les principaux intéressés, n'y croient plus. Les journaux locaux, qui eux aussi trouvent obsolète l'hypothèse du brave professeur Meaden, consacrent plusieurs articles à ce phénomène. L'affaire des cercles céréaliers suscite un intérêt inattendu. L'engouement étant souvent une affaire de quantité, plus j'en mange et plus j'en veux, le phénomène des cercles va bientôt rassasier les amateurs de mystère. Entre 1989 et 1991, leur nombre passe de quelques dizaines à plusieurs centaines. Les dessins se transforment encore. Fini les ensembles de deux ou trois cercles. En fait, les cercles n'en sont plus vraiment. Les journaux parlent d'insectogrammes quand ces formes rappellent des fourmis ou des coléoptères. Ces figures s'étendent sur des dizaines de mètres. Cette fois, plus de doute. Il y a bel et bien une intelligence derrière ces dessins. Exit, l'hypothèse naturelle des vortex de Terence Meaden. Qui plus est, des formes semblables sont également rapportées en Union soviétique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et dans de nombreux autres pays. Des groupes d'amateurs s'organisent. Le Center for Crop Circle Studies, le Circle Effect Research ou encore le Circle Phenomenon Research. Ces céréalogistes, un néologisme dont ils s'affublent, se dédient exclusivement au mystère des cercles. Ils sont de tout acabit. Ufologues, occultistes, ésotéristes, channeleurs, médiums et bien d'autres. Comme ces agroglyphes, un autre néologisme de circonstance pour rebaptiser ces formes, apparaissent principalement dans les champs du Wiltshire, là où se trouvent des structures énigmatiques comme Stonehenge, le cheval blanc de Westbury ou le tumulus de Sildbury Hill. Plusieurs voient dans ces figures, beaucoup trop grandes et complexes pour avoir été faites de main d'homme, des messages laissés par quelques intelligence supérieure, les IS, comme disent certains ufologues. Mais qui sont ces intelligences supérieures? On parle bien sûr des extraterrestres, bouc émissaire de toute bonne énigme digne de ce nom, mais aussi des fées, des farfadets et des gnomes. Des adeptes des doctrines du Nouvel Âge et quelques égarés du festival de Woodstock parle même de Gaïa, la Terre-Mère, qui manifesterait contre les activités destructrices de l'homme. Quoi qu'il en soit, ces curieux viennent des quatre coins du monde pour voir ces formes. Les agriculteurs ne sont pas en reste. Plusieurs organisent des visites de leurs champs, moyennant quelques billets verts. Les rumeurs s'amplifient. Des témoins affirment avoir observé d'étranges lumières virevolter au-dessus de certains agroglyphes. D'autres soutiennent avoir été pris de malaise et de nausées en marchant dans ces figures. Des experts soutiennent y avoir aussi détecté des anomalies magnétiques. Parmi ces spécialistes, des noms se démarquent. Colin Andrews, Pat Delgado et George Wingfield. Ces férus d'insolites organisent des veilles dans l'espoir de filmer l'apparition de ces mystérieux agroglyphes qui, étrangement, n'apparaissent que la nuit. Espoir déçu. Si des figures se forment durant leur nuit blanche, c'est malheureusement et toujours dans des champs voisins, loin de leur regard indiscret. Faut croire que ces céréalogistes sont les gens les plus malchanceux d'Angleterre. Le 9 septembre 1991, coup de théâtre. Sous le titre de « Man Who Conned the World », « Les hommes qui ont dupé le monde », le quotidien anglais Today publie les aveux de Doug Bower et Dave Chorley. Ces deux retraités de Southampton reconnaissent être les auteurs des cercles céréaliers, des agroglyphes. Doug Bower admet que c'est lui qui a eu l'idée de ces étranges figures en 1978. Une vingtaine d'années plus tôt, alors qu'il vivait en Australie, il a lu une série d'articles concernant des apparitions d'OVNI dans le Queensland. Ces objets auraient laissé derrière eux des traces au sol, des cercles de foin écrasés que la presse australienne avait alors baptisé « saucer nest », nid de soucoupe. C'est en s'inspirant de cet épisode que Bauer a convaincu son ami Dave Chorley de l'accompagner dans les champs du Wiltshire pour y faire des cercles semblables à ceux découverts dans le Queensland en 1966. Sous le couvert de la nuit et équipé d'outils rudimentaires, quelques bouts de corde et une planche d'un mètre de long, ils auraient fabriqué des cercles, et ce, au rythme d'une dizaine par année. L'affaire ayant à présent pris une telle ampleur, ils ne pouvaient plus continuer de garder le secret. Lorsque le Today publie les aveux de ces deux joyeux lurons, la communauté des céréalogistes est sous le choc. Tous accusent Bauer et Chorley d'avoir inventé cette histoire pour discréditer le phénomène. Ici, plusieurs experts, dont le leader Colin Andrews, reconnaissent que certains cercles puissent être des canulars. Ils ajoutent qu'aucune de ces supercheries n'aurait pu les tromper. Après tout, ne sont-ils pas des spécialistes? Et pourtant. Au lendemain de l'article du Today, le tabloïd demande à Bauer et Chorley de fabriquer un cercle devant les caméras de la télévision, ce que les deux sexagénaires réalisent en quelques minutes. Puis, le journal invite Pat Delgado, un expert autoproclamé et co-auteur avec Colin Andrews de Circular Evidence, un livre sur le phénomène des cercles, de venir jauger la dite formation. Après avoir inspecté les plants de blé, Delgado déclare le cercle authentique. C'est alors qu'arrivent Bauer et Chorley avec leurs planches et leurs cordes, plaçant le céréalogiste dans une situation plutôt embarrassante. Mais il en faut beaucoup plus pour désarmer ces amateurs qui refusent de croire qu'ils ont pu être trompés par ces deux grands-pères excentriques. Comment Bauer et Chorley auraient-ils pu réaliser tous les cercles rapportés dans le Wiltshire et les comtés voisins au cours de l'été de 1991? On parle de près de 300 cercles. En considérant que la période propice à la fabrication des agroglyphes va du début juin à la mi-septembre, soit 14 semaines, Doug et Dave auraient dû fabriquer 3 cercles par nuit, et ce, sans prendre une seule soirée de congé. C'est très improbable. Comment, en pleine nuit, aurait-il pu réaliser toutes ces figures sans jamais laisser d'empreintes ou de traces de leur va-et-vient dans les champs? Les experts rappellent que des agroglyphes ont aussi été rapportés dans des pays étrangers, comme le Canada, les États-Unis et même au Japon. Doug et Dave auraient-ils de surcroît découvert le secret de la téléportation? Les céréalogistes en rajoutent, en évoquant les travaux d'un Américain, William Livengood. Ce scientifique aurait trouvé dans des échantillons de végétaux des anomalies biologiques et génétiques. Comment Bauer et Chorley auraient-ils pu provoquer ces mutations avec leurs outils ridicules? Que dire aussi des perturbations magnétiques enregistrées dans plusieurs cercles? Ces anomalies seraient responsables du mauvais fonctionnement d'appareils électroniques et de malaises rapportés par plusieurs témoins. Pour les céréalogistes, la conclusion s'impose d'elle-même. Doug Bauer et Dave Chorley sont des imposteurs. Malgré ces questions, a priori bien légitimes, la presse se désintéresse des agroglyphes. Pour les médias et le public en général, la messe est dite. Le phénomène des cercles céréaliers n'est qu'un canular. En 1994, après 2 années de vaches maigres, les agroglyphes sont de retour. Leurs formes sont plus exotiques et raffinées que jamais. Plusieurs sont à couper le souffle. On ne parle plus uniquement de formes géométriques, mais de design très sophistiqué. Si beaucoup rappellent des insectes, d'autres s'inspirent des fractales, ces figures complexes issues des mathématiques. Certains commencent même à parler de géométrie sacrée pour définir ces dessins. À travers elles, ils trouvent de surprenantes corrélations mathématiques. Ils associent ces symboles aux anciens Sumériens ou aux Amérindiens Hopi. Les Hopi sont très populaires dans la culture du Nouvel Âge. C'est le début d'une ère nouvelle dans l'histoire des agroglyphes, celle de la démesure et du raffinement esthétique. Ces figures deviennent si complexes que chacune est perçue comme une œuvre d'art à part entière. Quelle que soit l'intelligence derrière ces formations, humaine ou non, il est clair que cette intelligence a le sens du spectacle. En août 2001, une gigantesque spirale de 268 mètres de diamètre et composée de 409 cercles apparaît à Milk Hill, dans le Wiltshire. Il s'agit du plus grand agroglyphe jamais observé. Cette même année, à quelques dizaines de mètres du radiotélescope de Chibbolton, dans le Hampshire, deux figures sont découvertes dans un champ de blé. Chacune s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. La première appelle le controversé visage de Mars et la seconde un message binaire envoyé en 1974 depuis le radiotélescope d'Arecibo dans l'île de Porto Rico à l'attention de nos hypothétiques voisins extraterrestres. Pour plusieurs céréalogistes, ces deux agroglyphes sont autant d'indices, témoignant de la nature de leurs hauteurs inconnues. En 2002, une formation représentant un extraterrestre, du genre petit gris, accompagnée d'une espèce de disque codé, est découverte à Spotswold, dans le Hampshire. Sa dimension est celle d'un terrain de football. Beaucoup y voient encore un indice de l'origine extraterrestre des agroglyphes. Aujourd'hui, même si on est loin des chiffres rapportés au début des années 1990, les agroglyphes continuent d'apparaître dans les champs du sud de l'Angleterre. Si la plupart des céréalogistes des premières heures ont quitté la scène, soit parce qu'ils sont décédés ou uniquement par lassitude, le phénomène attire encore les curieux et fait de nouveaux apôtres, des adeptes partagés entre l'hypothèse extraterrestre et celle, plus ésotérique, d'une intelligence supérieure. Le phénomène des cercles céréaliers est aussi passé dans la culture populaire. Plusieurs publicités les ont exploitées. Le groupe britannique Led Zeppelin les a utilisés pour la pochette d'un de leurs albums. Et, en 2002, le réalisateur M. Night Shyamalan en a fait le canevas de son film Sign, mettant en vedette Mel Gibson. Les cercles céréaliers. Dossier 00081980. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Pour des raisons qui me sont difficiles à expliquer, les ufologues s'emballent souvent pour des sujets douteux. Le dossier des cercles céréaliers est l'un d'entre eux. Lorsque le phénomène a trouvé écho dans la presse nord-américaine à la fin des années 1980, j'ai été le premier surpris de voir l'intérêt que soulevait le sujet auprès de mes collègues. Cette fascination était d'autant plus surprenante que le lien entre ces curieuses empreintes et les ovnis était excessivement ténu. À cette époque, je dirigeais l'organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges, OSIP, un petit groupe d'enquêteurs passionnés d'insolites. À quelques reprises, mes confrères ont évoqué le sujet. J'étais loin de partager leur enthousiasme. Pour moi, il y avait de fortes chances pour que le phénomène ne soit rien d'autre qu'une anomalie naturelle. Je me satisfaisais d'ailleurs assez bien de l'hypothèse des vortex proposée par George Terence Meaden. Qui plus est, il y avait des précédents. Dans son Natural History of Staffordshire, publié en 1686, le naturaliste Robert Plot raconte l'histoire d'une certaine Nicolea Lang Perhand qui, revenant chez elle, a aperçu des gens qui dansaient dans un champ. En y regardant de plus près, elle a remarqué que ces fêtards avaient les pieds fourchus, comme ceux d'une chèvre. Puis, ils ont disparu dans un tourbillon de vent. À l'endroit où ils se tenaient, il n'y avait plus qu'un cercle de foin écrasé. On retrouve aussi, dans un pamphlet publié en Angleterre en 1678, une illustration montrant un diable coupant un cercle dans un champ de culture. L'illustration présente des ressemblances frappantes avec les cercles céréaliers modernes. Ces deux exemples, et il y en a d'autres, prouvent que l'apparition soudaine de cercles dans les champs de culture est un phénomène très ancien. Ces histoires, souvent colorées du folklore local, parlent de tourbillons de vent et d'odeurs étranges, des manifestations associées aux vortex. À l'époque, ces exemples ne faisaient que me conforter dans ma position. Ajoutez à cela que le professeur Meaden avait réussi à trouver des témoins oculaires. À l'été de 1990, Gary et Vivian Tomlinson marchaient le long d'un champ près d'Humbledon, dans le Hampshire, lorsqu'ils ont été enveloppés dans un nuage de brume. Ils ont soudain entendu un sifflement suivi d'une violente rafale. Ils ont vu alors un tourbillon de vent faire onduler les plants de céréales et les coucher en formant un cercle presque parfait. Le phénomène n'a duré que quelques secondes. Pour moi, ce témoignage était tout à fait convaincant. Puis, au début des années 1990, le phénomène a changé. Les cercles céréaliers ont fait place aux premiers agroglyphes. Il fallait voir le pauvre professeur Meaden étirer son hypothèse des vortex pour la faire coller à cette nouvelle réalité. C'était pathétique. L'apparition de ces figures complexes a changé la donne et mon opinion. Il était clair que ces marques ne pouvaient pas ou ne pouvaient plus être uniquement le fruit d'un phénomène naturel. Il était temps pour moi d'aller voir sur place. Je suis arrivé dans le Wiltshire à la mi-août 1992. Les amateurs étaient encore sous le choc des aveux de Doug Bower et de Dave Chorley. Je me suis aussitôt rendu à l'aéroport d'Old Sarum, au nord de Salisbury, où j'ai nolisé un petit monomoteur. Je voulais saisir l'ampleur de ces figures, et le meilleur moyen d'y arriver était du haut des airs. Presque gêné, j'ai demandé au pilote de m'amener voir les Crop Circles. Mon voyage au pays des magiciens d'orge venait de commencer. En voyant apparaître ces formes, à cette époque, les agroglyphes se résumaient surtout à des cercles réunis les uns aux autres par des corridors, j'avoue avoir été impressionné. Nous survolions les champs à une altitude de quelques centaines de mètres et je voyais défiler sous le ventre de notre avion ces immenses figures. Plusieurs avaient la taille d'un terrain de football. Ma première pensée en les voyant a été « Moi, je ne serais pas capable de faire cela. » Ces figures me paraissaient trop gigantesques et trop parfaites pour avoir été faites de main d'homme. Dans l'enthousiasme du moment, j'étais prêt à croire à l'intervention des extraterrestres. Il était temps que je redescende sur Terre, au propre comme au figuré. À partir d'un relevé fait à bord de l'avion, je me suis rendu sur quelques sites. Les cercles céréaliers étaient devenus un véritable commerce. Des fermiers demandaient jusqu'à 5 livres, 9 dollars canadiens, pour une visite. Sur plusieurs formations, j'ai croisé des personnages étranges. Certains étaient assis en lotus à faire des méditations, d'autres arpentaient les cercles en tenant des baguettes de sourcier en quête de quelques effluves fantastiques. Tous étaient persuadés de la nature exotique du phénomène. Tous, sauf moi. Vu du sol, ces agroglyphes étaient beaucoup moins impressionnants. En dépit de leur taille, beaucoup présentaient des imperfections. Un cercle pas tout à fait rond ou un corridor désaxé. Ces imperfections auraient été inexcusables de la part d'intelligence supérieure, mais tout à fait pardonnables pour des artisans travaillant dans l'obscurité avec des outils rudimentaires. Contrairement à ma première impression, j'ai vite compris qu'il était aisé de reproduire ces formes. En suivant les ornières laissées par les tracteurs, un faussaire aurait pu facilement entrer dans un champ sans laisser de traces. Ensuite, en tournant autour d'un axe, un pieu fiché dans le sol, ou encore avec l'aide d'une tierce personne, il ne lui aurait resté qu'à coucher les plans en utilisant une planche de foulage. Un jeu d'enfant. Après avoir visité 4 ou 5 agroglyphes, je pouvais presque deviner comment les auteurs s'y étaient pris, par où ils étaient entrés dans le champ et par lequel des cercles ils avaient commencé. Durant ces excursions, j'ai aussi rencontré une poignée de spécialistes. Ils avaient tous leur hypothèse sur la nature des cercles et jouissaient tous de l'expertise nécessaire pour discerner les vrais des faux. Mais quand je leur ai demandé quels étaient ces critères, leurs réponses ont été plutôt évasives. La taille, l'orientation, l'énergie, la complexité du design. Rien de très objectif. Dans le flou, certains ont préféré me parler des extraordinaires découvertes de William Livingood, ce biophysicien américain qui aurait découvert des preuves irréfutables de l'origine exotique des agroglyphes. Il y avait aussi des films montrant des ovnis dans les environs des cercles. Une coïncidence trop fantastique pour n'être que le fruit du hasard. Dans cette cacophonie d'arguments, les spécialistes étaient au moins d'accord sur un point. Certains cercles étaient des fraudes. Je me suis dit qu'il serait alors plus judicieux d'évaluer le phénomène à partir d'un élément unanimement reconnu, plutôt que de spéculer sur des critères incertains. J'ai demandé à ces experts s'ils pouvaient m'identifier dans la moisson de 1992 un faux cercle. Sans hésiter, ils m'ont désigné celui d'East Meehan. East Meehan est un petit village dans le district d'Hampshire, voisin du Wiltshire. Au matin du 24 juillet 1992, un agroglyphe de plusieurs dizaines de mètres a été découvert dans un champ de blé. Au centre de la figure, il y avait deux demi-cercles rappelant un double D, la signature caractéristique de Doug Bower et Dave Chorley. DD pour Doug et Dave. Je me suis aussitôt rendu sur place, où la figure était encore bien visible, comme si elle avait été faite la veille. J'en ai pris des photographies, incluant de nombreux gros plans pour documenter la manière dont les tiges étaient pliées et entrelacées. J'ai ensuite visité une dizaine d'agroglyphes que les experts m'avaient identifiés comme authentiques. En comparant ces vrais agroglyphes à celui d'East Meehan, je n'ai trouvé aucune différence significative. Les plantes étaient pliées, sans être brisées, de la même façon, et les tiges continuaient de croître malgré leur état. Je n'éprouvais pas plus de nausées ou de maux de tête dans l'agroglyphe signé DD que dans les vrais. Je n'ai eu aucun ennui mécanique ou électronique avec mon appareil photo ou ma caméra vidéo, et ma boussole n'a jamais perdu le nord. Évidemment, je ne dis pas que ceux qui ont éprouvé de tels problèmes ont menti, mais ces plaintes sont trop anecdotiques pour faire partie de l'équation. Sans compter que, pour être considérées comme des caractéristiques valables, ces anomalies physiques, magnétiques, mécaniques ou électroniques devraient être omniprésentes dans tous les agroglyphes jugés authentiques, et non dans seulement quelques-uns d'entre eux. Je suis rentré au Québec persuadé que s'il existait une caractéristique permettant de distinguer les faux des vrais agroglyphes, en supposant qu'il y en ait des vrais, cette caractéristique ne résidait ni dans l'esthétisme de la formation, ni dans la manière dont les plantes étaient couchées. Peut-être cette différence était-elle invisible à l'œil. J'ai consulté le professeur Greg Kennedy. À l'été de 1992, un mois avant ma visite, un groupe de scientifiques s'était donné rendez-vous dans la campagne anglaise pour y étudier les agroglyphes. Cette investigation, baptisée Projet Argus, était dirigée par Michael Corost, un informaticien de l'Université du Texas. Était également associé à cette équipe Greg Kennedy, un chercheur en technique nucléaire à l'École polytechnique de Montréal. Quelques semaines après mon retour, j'ai donc contacté Greg Kennedy pour connaître son opinion sur les agroglyphes. En dehors de l'esthétisme et de la complexité du design, les chercheurs du projet Argus avaient-ils trouvé quelque chose de concret pour jauger l'authenticité de certaines formations? Non. Toutes ces prétentions à propos de perturbations magnétiques ou de rayonnements radioactifs n'étaient que des rumeurs. En fait, les chercheurs du projet Argus n'ont trouvé aucun élément permettant de faire un tri objectif. Quand j'ai demandé à Greg Kennedy s'il avait déjà entendu parler des travaux de William Levengood, décédé en 2013, ses commentaires ont été mitigés. Les chercheurs du projet Argus avaient eux aussi procédé à des analyses biochimiques, mais aucun de ces tests n'avait permis de confirmer les découvertes de Levengood. Ils m'ont aussi expliqué que Levengood avait une méthode de travail très particulière. Pour procéder à des analyses, il exigeait de savoir lesquels des échantillons provenaient de l'intérieur du cercle et lesquels avaient été recueillis à l'extérieur. Cette approche allait à l'encontre des règles élémentaires de la démarche scientifique.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. À l'instar de William Levengood, les chercheurs du projet Argus avaient eux aussi découvert des nodules sur certaines plantes et observé des ruptures dans les fibres élastiques des végétaux. Mais ces anomalies n'étaient pas exclusives aux échantillons provenant de l'intérieur des agroglyphes. Elles s'expliquaient d'ailleurs par divers facteurs environnementaux comme la température ou les taux d'humidité, plutôt que par l'influence de quelques énergies exotiques. À ce stade, mes conclusions étaient qu'un certain nombre de cercles uniques étaient peut-être, et j'insiste sur le « peut-être », dus à des phénomènes climatiques rares et exceptionnels, comme ces vortex électromagnétiques proposés par George Terence Meadon. Pour les figures plus complexes, il devait s'agir principalement de fraudes réalisées par des plaisantins, des émules de Doug et Dave. Je n'étais pas complètement fermé à la possibilité qu'un petit nombre de ces agroglyphes puisse être lié à un phénomène étrange et inexpliqué. Mais si tel était le cas, et j'étais loin d'en être convaincu, les céréalogistes et les rares scientifiques intéressés par le sujet n'avaient pas encore isolé une caractéristique fiable pour les identifier. Les années n'ont rien changé à mes conclusions initiales. Malgré l'intérêt soutenu de toute une nouvelle génération de céréalogistes, plus proches des croyances du Nouvel Âge que de l'ufologie pure et dure, aucun élément nouveau n'est venu étayer de manière convaincante l'hypothèse d'une nature exotique des agroglyphes. Et aucun laboratoire reconnu n'a confirmé les soi-disant découvertes de William Levengood. En 2002, lors du tournage de ma série à ZTélé Enquête sur les ovnis, je suis retourné au pays des agroglyphes. Durant mon séjour, j'ai eu la chance d'accompagner des « circle makers », des faiseurs de cercles, dans leur équipée nocturne. Ces groupes, une bonne demi-douzaine, le Bill Bailey Gang, Merlin et Company, ou encore Spider-Man et Catwoman, arpentaient les campagnes anglaises pour y faire ce qu'ils appelaient du « land art », littéralement de l'art de terrain. Équipés de lunettes infrarouges et d'outils rudimentaires, ils pouvaient réaliser en quelques heures de véritables chefs-d'œuvre. La nuit n'était pas réellement un problème. Dans de bonnes conditions météo, la campagne n'est jamais complètement plongée dans les ténèbres. Il y a toujours les étoiles et la lune. Il faut se rappeler aussi qu'une fois accoutumé, l'œil humain peut voir à une bonne distance dans l'obscurité. Au nombre de leurs réalisations, il y avait bien sûr ces complexes figures géométriques qui continuaient de faire fantasmer les amateurs de mystère. Mais il y avait aussi des designs moins exotiques, mais tout aussi spectaculaires. Elvis Presley, Hello Kitty et même Homer Simpson. Quelques-uns de ces groupes s'étaient même fait payer pour agroglyphier des publicités. Pour eux, ces dessins étaient un substitut plus esthétique aux tags urbains. Ils m'ont également expliqué que, contrairement aux prétentions des céréalogistes et des ufologues, ces dessins n'apparaissaient pas toujours en l'espace d'une seule nuit. Si leur œuvre n'était pas découverte le lendemain, certains circle makers n'hésitaient pas à y retourner la nuit suivante pour peaufiner leur travail. Beaucoup d'artistes m'ont confié avoir consacré 3 ou 4 nuits consécutives à la réalisation de leurs tableaux. Dans plusieurs cas, une fois le travail complété, ils ont eux-mêmes informé les médias de l'apparition soudaine de ces nouveaux agroglyphes. Certains de ces circle makers ont poussé la plaisanterie encore plus loin. En 1996, une vidéo montrant des sphères lumineuses évoluant au-dessus d'un champ où se formait en simultané une série de cercles a commencé à circuler sur le web. Les images avaient apparemment été tournées par un vidéaste amateur près d'Oliver's Castle, dans le Wiltshire. Pendant des mois, les férus de mystère se sont extasiés devant cette vidéo. Elle était enfin cette preuve qu'ils attendaient, une preuve irréfutable de la nature exotique des agroglyphes. Dans la foulée, des céréalogistes, improvisés en experts photographiques, ont prétendu que ces sphères provenaient d'un objet lumineux bien plus grand à l'arrière-plan, vers lequel elles étaient retournées à la fin de la séquence. En réalité, ces images étaient l'œuvre de John Wabe, un employé d'une compagnie de production télévisuelle de Bristol. Wabe avait non seulement truqué la vidéo, mais il avait aussi fabriqué un agroglyphe pour rendre son histoire plus crédible. Même si le Circle Maker a depuis avoué sa supercherie, sa vidéo continue de circuler dans les milieux céréalogistes comme la preuve de la nature paranormale des agroglyphes. 40 ans après l'apparition du phénomène, le sujet ne cesse d'alimenter la controverse et une certaine fascination. Pourtant, il n'existe toujours aucune preuve quant à la nature exotique des agroglyphes. Aujourd'hui comme hier, les prétendus experts continuent d'évoquer des critères purement subjectifs pour déterminer laquelle de ces formations est ou n'est pas authentique. Après tout, ce n'est pas parce qu'il y a un faux billet de 20 $ que tous les billets de 20 $ sont des faux, m'a confié l'un d'eux. C'est vrai. Mais si les agroglyphes sont réellement des messages laissés par des intelligences supérieures, force est de reconnaître que leur technique de fabrication ressemble étrangement à celle des faussaires. Au lieu de dessiner une figure géométrique au milieu d'un champ, pourquoi ne pas coucher tout le champ en ne laissant debout que l'agroglyphe? Pourquoi ne pas plier les tiges à moitié plutôt qu'au ras du sol? De telles prouesses donneraient à réfléchir aux sceptiques. Et enfin, et surtout, pourquoi ces intelligences supérieures ne travaillent-elles que la nuit? Serait-elle allergique à la lumière? C'est vrai que la nuit, tous les chats sont gris. Et dans l'obscurité, rien ne ressemble plus à une intelligence supérieure qu'un pauvre quidam équipé d'une planche et d'une corde. Mais le rapport le plus dévastateur a été publié par un groupe d'ufologues français sous la plume de Gilles Munch, l'un des responsables du comité nord-est des groupements ufologiques, ou SNEGU. Entre 1991 et 1993, ces amateurs se sont rendus en Angleterre pour enquêter sur ces étranges formations. À l'issue de leur visite, ils ont publié le rapport VECA, un acronyme pour Voyage d'études des cercles anglais. Le document montre que, malgré leurs formes variées, les agroglyphes restent très semblables. Cette constante tient essentiellement dans les motivations et les techniques utilisées par les artisans. Le rapport VECA est littéralement le guide du parfait Circle Makers, le « tout ce que vous devez savoir pour réaliser votre agroglyphe ». Les auteurs expliquent pourquoi certains champs ont été favorisés à cause de leur isolement, leur accessibilité ou leur visibilité. Comment les faussaires s'y sont pris pour coucher les plans sans les briser? Et quelles techniques ils ont utilisées pour faire des cercles parfaits et des lignes droites? Rien d'exotique ou de magique. Ce sont ces mêmes techniques qui ont été utilisées et qui sont toujours utilisées pour faire des cercles simples, des insectes géants ou Homer Simpson. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2018, un groupe de youtubeurs sceptiques, astrono-geeks, hygiène mentale, la tronche en biais, Defecator et un monde riant se sont rendus à Saraltrof en Moselle, en France, où, avec l'aval d'un agriculteur, ils ont fait un agroglyphe de 50 mètres de long. Pendant 2 mois, ils ont gardé le plus grand secret sur leur réalisation. Rapidement, la petite commune de Saraltrof a été envahie par des hordes de curieux et d'illuminés en tout genre. Beaucoup étaient là pour se ressourcer dans le bain énergétique de l'agroglyphe. Umberto Molinaro, un expert autoproclamé des cercles céréaliers, a débarqué avec ses ouailles où ils se sont livrés à des rituels de méditation mystico-ésotériques. Selon lui, l'agroglyphe était trop spectaculaire pour avoir été fait par des plaisantins. Fin août 2018, les youtubeurs ont finalement avoué leur supercherie et mis en ligne des vidéos tournées lors de sa fabrication. Les images montrent comment 6 individus, équipés de lampes frontales et d'outils rudimentaires, peuvent réaliser des figures spectaculaires. Les youtubeurs ont mis à peine 90 minutes pour terminer leur création. Tous les défenseurs d'une pseudo-technologie alien ont été bluffés. Malheureusement, l'exercice de Saraltrof ne changera pas grand-chose au désir de croire de certains. Demain ou la semaine prochaine, ces rêveurs retourneront s'étendre au milieu d'un nouvel agroglyphe pour chanter des mantras à la gloire des êtres de lumière. Et quand quelqu'un leur parlera de Saraltrof, ils répondront « Saraltrof? Jamais entendu parler. » Parce que c'est cela aussi le monde des ovnis, un univers où l'amnésie devient le meilleur allié des extraterrestres. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.